au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Au fil des pages s'intéresse à la société des explorateurs français et plus particulièrement aux académiciens explorateurs. Créée en 1937 par Paul-Émile Victor, Théodore Monod et l'exploratrice, journaliste Ella Maillard, la Société des explorateurs ne cesse de parcourir les déserts, les forêts, les mers, les montagnes et les étendues polaires en quête d'une meilleure connaissance du monde, de ses peuples et d'eux-mêmes. La Société des explorateurs est encore bien vivante. Aujourd'hui, elle accueille de nouvelles personnalités telles que Philippe Fray, spécialiste des déserts que nous avons reçu ici à Canal Académie, Jean-Louis Etienne, Claudie Aigneret, Bertrand Picard, Isabelle Autissier, ainsi que Christian Clos qui nous a rejoint en studio. Christian Clos, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ici au studio de Canal Académie. Vous êtes donc explorateur aventurier, membre du comité directeur de la Société des explorateurs français depuis 2005, photographe, réalisateur, et vous avez publié donc sous votre direction 100 ans d'exploration, paru en 2007 aux éditions Glénat, un magnifique livre de photographie avec des cartes, des extraits de carnets, de dessins et de peintures de quelques 80 explorateurs sur les 700 membres de la Société d'exploration. Alors c'est sur ce livre que nous allons nous appuyer pour parler plus particulièrement des académiciens, membres de la Société d'exploration. Auparavant, une question d'ordre logique peut-être. Pourquoi intituler votre livre 100 ans d'exploration alors que la Société date de 1937, Christian Clos?
C'était justement parce qu'on avait peur qu'on n'ait pas assez de questions, alors on s'est dit on va faire une petite subtilité, comme ça on est sûr qu'on en aura quelques-unes. Non, c'est simplement effectivement, la société s'est créée en 1937. Je tiens juste à dire que durant toute l'histoire de la société, nous avons été effectivement 700, mais qu'aujourd'hui nous sommes 250. 700 membres, c'est au cours de toute l'histoire de la société. Et basiquement, on avait envie, lors de l'arrivée à nos 70 ans, de faire un livre qui raconte notre histoire. Et puis on a réalisé, au fil de la préparation de cet ouvrage, que la première expédition, celle d'Alexandra de David Nel, démarrait en 1911. Et que la dernière expédition allait se terminer en 2010. On a trouvé presque dommage de se restreindre à nos 70 ans, alors que finalement, forcément, les explorateurs de 1937 avaient fait des choses avant la création de la société. Donc, on a décidé d'appeler ça 100 ans d'exploration. Puis, c'est vrai que ça fait joli 100 ans plutôt que 70 ans.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle explorateur aujourd'hui? Je suppose que la notion a évolué entre Christophe Colomb, Claudie Aigneret, astronaute. Qu'est-ce qu'on appelle explorateur?
Je ne suis pas certain que la notion ait tellement évolué, c'est plutôt le terrain de recherche qui a évolué. Pour moi, l'explorateur, c'est vraiment quelqu'un qui a une envie, une curiosité de recherche, de découverte, d'aller un peu plus loin que ce qui est déjà connu. Alors, on peut aller plus loin que ce qui est connu, évidemment, en explorant des terres, mais ça, c'est vrai qu'on arrive petit à petit au bout de ce qu'on peut faire, en tout cas à ciel ouvert, puisqu'on ne parle évidemment pas là des océans, du monde souterrain, qui a encore énormément de choses à découvrir. Mais on peut aussi parler de découverte d'espèces. On sait qu'aujourd'hui, on connaît que 6 à 7% des espèces sur le monde, donc il reste encore énormément de choses à faire. On pourrait parler de technologie presque, puisque finalement aujourd'hui les recherches de les nanotechnologies sont des recherches absolument extraordinaires, où les personnes qui ont l'idée d'aller voir un peu à côté de ce qui existe déjà peuvent paraître être des explorateurs. Alors évidemment, nous, la Société des explorateurs français, on s'arrête d'abord à ceux qui sont sur le terrain. Mais tous les scientifiques, les archéologues, les ethnologues, tous ces gens-là font partie d'explorateurs parce qu'ils vont chercher ce qu'on ne connaît pas encore.
Et la différence avec aventurier, est-ce qu'il y en a vraiment une?
Oui, il y en a vraiment une. Je crois que les deux ont la même idée, la même envie de se dépasser eux-mêmes, parce que c'est vrai que l'explorateur a besoin de se dépasser avant de pouvoir dépasser ce qui est connu.
Avec une notion peut-être plus scientifique, non?
Non, alors la grosse différence pour moi, c'est que l'aventurier peut être monsieur tout le monde, dans le sens que pour certaines personnes, traverser la rue, ça peut être une véritable aventure. Quelqu'un qui pour une certaine raison, n'a pas pu sortir pendant des années, tout d'un coup va se retrouver dehors. Imaginons la personne qui est aujourd'hui avec les opérations et la personne qui est aveugle, qui recouvre la rue. Quelle aventure extraordinaire. Cependant, ça ne fait pas forcément avancer, j'allais dire, l'humanité. C'est quelque chose qui est très personnel et qui peut être extraordinaire, qui peut mériter d'être raconté. D'ailleurs, il y a des livres d'aventure absolument fabuleux, mais ils n'ont pas ce caractère d'avoir fait une découverte nouvelle pour l'humanité. L'explorateur, il a la même chose, il va aussi se dépasser lui-même, il va aussi vivre une aventure, mais qui va permettre, à côté de ça, de faire découvrir quelque chose de nouveau.
Alors, on l'a bien compris, la notion d'exploration, l'explorateur, c'est une notion assez large, car ça va au-delà du territoire. Comment avez-vous fait pour avoir, de ces 700 membres, fait une sélection de 87 explorateurs?
Avec beaucoup, beaucoup de difficultés, évidemment, parce que ça va au-delà de ça. On avait 700 membres, mais ces 700 membres, ça représente plusieurs milliers d'explorations, puisqu'on avait pris le parti, non pas d'ailleurs de mettre en avant un explorateur, même si c'est un peu le cas dans le livre, mais une exploration, une expédition. Donc, par exemple, certains explorateurs qui sont dans le livre, vous citiez Jean-Louis Etienne, on aurait pu parler de 5, 6 de ces expéditions qui chacune sont extraordinaires. Mais le choix a été de parler que d'une expédition par personne pour pouvoir justement citer suffisamment de monde. Donc, on avait plusieurs milliers d'expéditions possibles. Alors, on a fait évidemment des choix. D'abord, il fallait avoir été membre de la Société des explorateurs français. C'est pour ça que certaines grandes personnalités de l'exploration française ne sont pas dans le livre. On pense à des gens comme Jean Mallory, par exemple, qui a évidemment rémérité d'être dans le livre, mais n'a jamais été membre de la Société. On en parlera sûrement après, mais Jean-Baptiste Charcot, mais malheureusement, est mort juste avant la création de la Société, donc il n'est pas non plus dans le livre. Ça, c'était le premier critère. Le deuxième critère a été qu'on voulait que ces expéditions aient apporter quelque chose de nouveau, réellement. Il y a des tas d'expéditions qui partent, puis pour diverses raisons, elles n'arrivent pas au bout, ou alors elles découvrent pas réellement ce qu'elles étaient parties chercher. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont rien découvert, mais autre chose. Donc on a voulu que ça apporte quelque chose de nouveau. C'était le deuxième critère. Puis troisième critère, puisque c'était un livre d'images, il fallait des images. Alors là encore, on a des expéditions extraordinaires, mais qui n'ont rapporté aucune image. Malheureusement, elles ne sont pas dans ce livre, elles seront dans un autre livre qu'on espère faire bientôt. Ou malheureusement, dans certains cas, des images introuvables ou inaccessibles parce que possédées par des personnes qui ne veulent pas en donner l'accès. Et ça a limité pour 2-3 expéditions qui sont un déchirement de ne pas avoir dans le livre, mais on ne peut pas les citer puisque les images n'étaient pas existantes. Donc tous ces critères-là ont finalement permis de réduire le quota, d'arriver d'abord à 120, puis 80 expéditions, et finalement à ces 67 expéditions qui représentent 87 explorateurs, qui toutes ont un caractère extraordinaire, qui permet de découvrir tous les milieux, toutes les manières d'explorer et puis toutes les personnalités. Donc finalement, c'est quand même un beau panel.
Parmi ces 87 explorateurs, nous allons encore restreindre la sélection. Nous allons nous intéresser plus particulièrement aux académiciens, que ce soit l'Académie française, l'Académie des sciences ou l'Académie des sciences morales et politiques. Commençons, si vous le voulez bien, par Théodore Monod, grand naturaliste, dernier naturaliste français. Nous avons réalisé ici une émission avec Roger Kans. Nous invitons nos internautes à télécharger également cette émission. C'est le premier à parcourir le Ténézerou.
Voilà, entre autres, parmi beaucoup de choses. Je suis pas sûr que Théodore Monod, lui, aurait apprécié qu'on dise que c'était le dernier naturaliste français. Parce que justement, son but était de faire accéder à la connaissance. Et je pense qu'il avait vraiment l'espoir que d'autres personnes après lui continuent de le faire. C'est vrai qu'objectivement, il n'y a peut-être pas une personnalité aujourd'hui qui se démarque comme l'a fait Théodore Monod, parce qu'il avait non seulement une vie entière consacrée depuis l'âge de 16 ans. Théodore Monod écrit des thèses, des idées, des tas de choses. Et durant toute sa vie, il l'a fait. Donc, il a apporter une connaissance absolument extraordinaire. Mais clairement, aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui font des superbes travaux et qui vont apparaître dans quelques années. Théodore Monod a cette particularité d'avoir été connu finalement très tard, puisque c'est seulement à partir du film Le vieil homme et le désert qu'on a commencé à voir Théodore Monod tel qu'il était. Jusque-là, Théodore Monod, il faisait son travail et quelque part, il ne s'intéressait pas tellement aux médias. Et quand il a compris que les médias allaient pouvoir lui permettre de faire passer un message, son message, celui de faire mieux connaître la planète et essayer de la protéger un peu, alors il s'en est servi et avec beaucoup d'art, parce qu'il avait une capacité oratoire qui était extraordinaire. Mais avant d'être cet orateur extraordinaire, c'est vrai que ça a été un explorateur fabuleux, qui avait un courage et une abnégation de partir dans des expéditions dans le désert qui sont extraordinaires.
Alors justement, il est évoqué son parcours dans les premières pages de votre livre. En 1923, il parcourt la Mauritanie, 800 kilomètres à pied en 28 jours. Est-ce qu'il y a également une notion d'exploit physique dans la notion d'exploration ?
C'est le paradoxe, je crois, de la plupart des expéditions de ce livre, c'est que toutes sont des exploits extraordinaires, toutes sont des exploits physiques, souvent, et pourtant, pratiquement personne n'est parti pour réaliser un exploit. L'exploit, c'était une nécessité pour aller chercher ce qu'il cherchait. Et Théodore Monod est un bel exemple. Il a fait des parcours dans le désert extraordinaires. Je crois qu'on est loin de connaître réellement tout ce qu'il a fait, d'ailleurs, en termes de parcours. Mais son seul but dans ses parcours, c'était d'aller chercher des choses là où les autres n'avaient pas encore été les chercher. Pour ça, il était obligé de finalement se mettre dans des situations d'exploit, mais l'exploit n'est qu'un véhicule qui lui permettait d'accéder à sa connaissance. Et c'est ça qui est extraordinaire avec tous ces explorateurs, c'est que mais c'est Audouin Dollfus qui n'est pas académicien, mais j'aimerais juste en dire un mot parce qu'il a cette particularité d'avoir été le premier homme à faire des études astronomiques au-delà de l'atmosphère, donc de construire un ballon. Il a construit la plus haute construction humaine à l'époque de 500 mètres de hauteur avec des ballons. Il est monté, il est resté à 14 000 mètres, il a fait des études, c'est le premier au monde à avoir fait ça. Et quand on lui dit, mais vous avez fait un exploit, il dit, mais non, moi j'ai juste été voir les étoiles, quoi. Donc, et Théodore Monod avait cette même particularité. Quand on lui disait, mais vous avez traversé ça, c'est incroyable, vous êtes mis en danger dans des conditions extrêmes, il répondait, moi j'ai juste été chercher une pierre, une fleur, une idée, une peinture, une nouveauté. Et cette idée qu'il avait trouvé là son diocèse, c'est quelque chose qu'il répétait assez souvent, puisque la toute première idée de Théodore Monod, ça avait été d'être pasteur. On connaît son engagement profond par rapport à cette notion-là. Il n'a jamais été pasteur parce qu'il a trouvé finalement d'autres manières d'exprimer sa foi dans ses expéditions. Mais c'est vrai que ce diocèse qu'il avait trouvé au sein du désert lui permettait d'aller très très loin, je crois, parce que spirituellement, il avait cette force-là.
Autre personnalité décédée depuis, c'est Jacques-Yves Cousteau, qui était à l'Académie française, qui est donc depuis devenu immortel, comme on dit ici. Jacques-Yves Cousteau, qui a eu, lui, cette particularité non seulement de découvrir le monde du silence, et également de créer son propre matériel.
Oui, voilà, typiquement une exploration qui, à la base, n'était pas forcément une, puisqu'elle est purement technologique. On a un homme qui, un jour, découvre le monde sous-marin. Il le fait en apnée. Le premier film de Cousteau, 18 mètres sous les fonds, a été fait entièrement en apnée.
Donc, en 1943, donc 10 ans avant son grand film.
C'est complètement extraordinaire. Et simplement ce constat de sa part de dire, mais quand même, ok, en apnée, on peut faire des tas de choses, mais qu'est-ce que j'aimerais rester plus longtemps dans ce monde extraordinaire dans lequel je me sens si bien? Il va se mettre à chercher. Lui, il existe déjà des systèmes pour aller sous l'eau. Hein. On a des gros scaphandres alimentés depuis la surface, mais qui sont lourds, qui permettent pas d'être bien, puis surtout dans lesquels l'homme est entièrement entouré par une combinaison. Lui, ce qu'il voulait, c'est aller plus loin. Donc, il s'est mis à développer. Il a été chercher les bonnes personnes. Il avait une chance, c'est que sa femme travaillait alors à la société Air Liquide, dans laquelle travaillait un homme extraordinaire qui était Monsieur Gagnon. Et cet homme qui avait inventé, parce que c'était la guerre, alors il fallait des systèmes pour arrêter de consommer le gaz de manière trop forte. Il a inventé un système de détendeur à la demande qui permettait pour les voitures de donner le gaz que quand on appuyait sur un accélérateur. Ils ont transformer ça pour que c'est le même système fasse que quand on aspire, on ouvre une valve qui apporte l'air, puis quand on arrête d'aspirer, l'air arrête d'arriver. Et grâce à ça et des tas de modifications et des essais absolument extraordinaires, les premiers qui ont été faits dans la Marne, il faut voir la photo de Cousteau tenu par un homme, parce que bon, ils savent pas trop ce qui va se passer réellement, si ça se trouve ça va pas marcher, il peut s'étouffer sous l'eau, donc il essaye d'abord à 2 mètres, à 10 mètres, il est dans une eau complètement glauque, parce que la Marne à l'époque elle est déjà pas très nette, enfin, elle transporte plein d'alluvions, et il fait ses essais et petit à petit ils arriveront à développer le système qui aujourd'hui permet à tout le monde de plonger. Et cette exploration-là, d'abord technologique, a permis à Cousteau de devenir l'homme qu'il est. D'abord parce que financièrement, le brevet qu'ils ont déposé lui a apporté l'aisance financière suffisante pour faire tout ce qu'il avait envie de faire. Et puis parce qu'ensuite, il a su développer une qualité de travail sous-marin qui, évidemment, fait référence encore aujourd'hui.
Et avec cela, vous l'écrivez dans votre livre « 100 ans d'exploration », une nouvelle discipline naît, c'est l'archéologie sous-marine. Oui. Et puis également, on découvre les tables de décompression quand on fait de la plongée. Hein, il faut passer par plusieurs stades et ça, ils vont l'apprendre peut-être à leurs dépens, mais ce seront des nouvelles notions.
Oui, alors deux choses. C'est vrai que l'archéologie sous-marine naît. Cousteau a eu cette envie d'archéologie sous-marine lorsqu'il a entendu les bateaux du port de Cherbourg se faire détruire par les Allemands. Et il s'est dit, mais on est en train de perdre un patrimoine énorme, il faudra que j'aille voir un jour ce qu'il en reste. Et c'est aussi une des raisons qui l'a poussé tellement à travailler pour découvrir la capacité de descendre sous l'eau. Et puis alors, évidemment, les tables de décompression, comme vous dites, ça a été totalement empirique au début. Il descendait, alors le premier, c'était, j'ai un blanc sur le nom, mais c'était un des hommes de l'équipe Cousteau qui descend à 67 mètres, qui bat le record du monde à l'époque et qui remonte, puis il dit, ah, j'ai eu un peu mal, j'étais un peu ivre, je comprenais pas trop ce qui se passait. Bon, il avait tout simplement subi la maladie de décompression qui aurait pu d'ailleurs être... Enfin, ils ont eu, sans doute parce qu'ils avaient aussi un certain nez, un certain flair, mais ils ont eu quand même pas mal de chance parce qu'ils descendaient, ils essayaient, puis tout d'un coup ils s'évanouissaient sous l'eau, ils se disaient, ah, ben là, ça veut dire qu'on arrive à la limite. Alors ils écrivaient, on est resté tant de temps à tant de mètres, on s'est évanoui, bon, ben, on va essayer de faire autrement. Puis petit à petit, se sont créées des tables de décompression. Et pour ça, Cousteau a eu aussi la qualité d'aller travailler avec l'armée. Et notamment ensuite l'US Navy, donc l'armée américaine, qui avait des moyens très forts de faire des essais. Et ils ont créé ces premières tables de décompression, qui ont évidemment été beaucoup modifiées depuis, mais sans lesquelles on peut penser qu'il y aurait beaucoup plus d'accidents en plongée.
Et ces explorateurs français travaillent ensemble, en tout cas ça leur arrive, puisque Jacques-Yves Cousteau, Théodore Monod et Auguste Piccard se sont retrouvés ensemble pour tester le premier bathyscaphe.
Totalement, c'est extraordinaire. Auguste Piccard, qui avait été l'homme le plus haut en ballon, a eu l'idée d'inverser son système pour aller cette fois sous l'eau. Il crée le FNRS 2, le premier bathyscaphe autonome, parce qu'il y avait déjà des choses qui étaient tenues par des cordes qui descendaient. Là, il est totalement autonome. Et ben, ils ont deux idées. D'abord, il faut bien essayer ce truc. Et puis ensuite, quel intérêt de descendre sous l'eau si ce n'est pour essayer de faire des études? Donc, ils cherchent un naturaliste. Et là, il y a Théodore Monod qui lève la main, qui lui est d'abord passionné par la mer. On le sait peut-être moins sur Théodore Monod, mais d'abord, il travaille sur la mer, puis c'est ensuite qu'il a découvert le désert. Donc, il est le premier homme avec Auguste Piccard à s'enfermer dans cette machine. Alors, ils se mettent dedans, ils se font boulonner, ils ont aucune possibilité de sortir par eux-mêmes. Hein, s'il y a quoi que ce soit, ben, c'est terminé. Et on les plonge comme ça. Alors, la première plongée, c'est 25 mètres. Et Théodore Monod dira, 25 mètres, c'est un peu peu. On va dire 25 000 millimètres, c'est quand même plus joli.
J'avais cru comprendre qu'ils devaient descendre beaucoup plus bas à la base. Finalement, ils ne pourront pas tout de suite descendre à 4 000 mètres.
Oui, alors tout à fait. Bah, l'idée, c'était d'aller le plus profond possible. Alors la première fois, à 25 mètres, c'était pour voir s'ils prenaient pas à l'eau. Et ensuite, quand ils ont fait les essais à 1600 mètres, et malheureusement, le bathyscaphe a été détruit par les courants et parce qu'il a été frappé contre la coque et il était entièrement détruit. D'où deux aventures séparées ensuite qui commencent. Auguste Piccard qui va avec les États-Unis développer le Trieste, qui deviendra réellement le bathyscaphe le plus profond du monde dans les Mariannes. Et les Français qui développent l'Archimède. Aussi une aventure qui est dans le livre, et qui vont, eux, pas battre le record du monde, puisque la fosse de Marianne, c'est la plus profonde, mais dans la fosse d'Icoury, d'être les seconds plus profonds du monde. Mais avec tout le savoir-faire accumulé, ils ont pu, eux, contrairement à Trieste, qui n'a plongé qu'une fois, plonger des centaines de fois à des profondeurs extrêmes, et ramener des études scientifiques fabuleuses. Alors malheureusement, Monod était plus dans le coup, ni même Auguste Piccard, et Cousteau, plus non plus, puisqu'il s'était dissocié de l'aventure, parce que justement, il trouvait que la séparation était dommage. Mais cette initiation qu'ils avaient créée, ces trois-là, qui se sont mis ensemble pour développer tous ces principes-là, a permis la découverte d'une partie des fonds sous-marins. Ce qui est étonnant, et ça c'est un petit message que je passe à l'administration actuelle, c'est que les fonds marins restent beaucoup moins connus que la surface lunaire, et qu'on a arrêté complètement de développer des bathyscaphes capables d'aller en profondeur. Il faudrait peut-être y repenser.
Je vous propose de marquer une courte pause, Christian Clot, et on se retrouve tout de suite après pour parler peut-être plus en détail de Pierre Mazeaud et de Claude Lorius. À tout de suite.
Jean-Luc Pinceau, le créateur de la troupe du Petit Miroir, spécialisée dans le théâtre des marionnettes chinoises, est lauréat depuis le 11 juin 2007 du prix de la Fondation franco-culturelle taïwanaise. Vous êtes amateur de théâtre, venez découvrir ce théâtre très populaire à l'origine de l'opéra chinois. Depuis le XVIe siècle, à Taïwan, les marionnettes honorent les divinités. Ce théâtre cultuel est aujourd'hui un élément fort de la culture taïwanaise. Alors installez-vous confortablement, venez écouter l'émission Point de mire et levons ensemble le rideau sur un genre théâtral qui invite au voyage. Retrouvez l'émission Point de mire, la culture taïwanaise dans le miroir des marionnettes.
Suite de notre émission au fil des pages, toujours en compagnie de Christian Clot, à partir de l'ouvrage 100 ans d'exploration, paru aux éditions Glénat en 2007. Dans la deuxième partie de cette émission, Christian Clot, nous allons continuer de discuter des académiciens, explorateurs, et notamment de Pierre Mazeaud, qui est entré très récemment à l'Académie des sciences morales et politiques, et qui est connu pour avoir gravi l'Everest. C'était en 1978.
Pierre Mazeaud qui est un alpiniste, cette carrière politique que tout le monde connaît, absolument extraordinaire durant toute sa vie, mais qui est alpiniste et qui a cet état d'esprit de l'alpiniste qu'on avait encore à l'époque, où on se fait plaisir entre amis d'abord. Donc c'est vrai qu'à l'époque, on monte sur les sommets, on a la bouteille de rouge dans le sac, souvent un cigare, et puis quand on arrive au sommet, on débouche la bouteille, on fume le cigare.
C'est ce que vous faites aussi, parce que vous êtes également alpiniste, entre autres.
Moi, je bois peu ou pas, et je fume pas, parce que de toute façon, c'est interdit partout maintenant, alors je fume pas non plus, mais c'est, disons, au-delà de cet état d'esprit bouteille et cigare, il y avait un état d'esprit plus bon enfant, et on faisait de la montagne d'abord vraiment pour se faire plaisir, et avant de faire des exploits sportifs. L'exploit sportif, aujourd'hui, on essaie de faire les voies les plus difficiles, les plus longues, en hivernale, tout ça. Jacques Pierre Mazeaud, c'était pas forcément l'époque. Lui, il était avec une bande d'amis. Il y avait Jean Afanasieff, il y avait d'autres personnes comme ça. Et puis, il avait fait une première tentative à l'Everest qui avait malheureusement pas abouti, et bien plutôt, c'était mal terminé. Il avait nourri l'idée d'y retourner, mais cette fois avec sa propre expédition. Il voulait le faire assez vite, mais je crois que ça a mis pratiquement 6 ans, parce qu'il était déjà engagé dans une carrière politique. Donc on part pas comme ça facilement, parce qu'à l'époque, aller faire l'Everest, ça se fait pas comme ça. On va à Katmandou, puis ensuite on marche de Katmandou jusqu'au camp de base de l'Everest. Donc déjà, c'est très long pour accéder au camp de base. Et puis ensuite, il faut quand même faire l'Everest, s'acclimater, tout ce qui va avec. Puis ensuite, on remarche dans le sens inverse. Donc, les deux mois d'aller et de retour, aujourd'hui, on les fait en quelques heures avec des avions et des hélicoptères. Donc, il y avait encore cette... L'Everest représentait encore quelque chose d'extraordinaire et pour lequel, non seulement on allait faire un sommet, mais en plus, on s'imprégnait d'un pays. On était avec des hommes, des femmes, des sherpas, des porteurs, des sirdars. On buvait le thé sur le bord de la route avec les habitants. Et Pierre Mazeaud a décidé qu'une expédition française devait y aller. Il a eu de la chance qu'à l'époque, TF1 était en train de se créer.
TF1, Radio France, oui.
Donc, il a pu avoir ce soutien-là. Et puis, ils ont fait une expédition entre amis, mais qui est devenue quand même la première française à l'Everest. Absolument extraordinaire. Et là, Jean Afanasieff, qui est le premier à poser le pied, qui prendra ensuite les photos de Pierre Mazeaud et puis des autres, est finalement le premier Français à être monté sur l'Everest, mais grâce à l'expédition de Pierre Mazeaud.
Et quelques chiffres qui sont dans votre livre. 400 porteurs, 12 tonnes de matériel, 260 kilomètres parcourus.
Oui. Aujourd'hui, on se représente plus ça, ces fameux
12 tonnes de matériel,
400 porteurs. Mais... Vous imaginez la colonne que ça fait. C'est-à-dire que pour accéder là-bas, on marche pas 10 heures par jour. C'est-à-dire qu'il faut d'abord le matin tout démonter le camp, parce qu'il y a les 12 alpinistes, mais il y a aussi ceux qui les accompagnent, les médias. Ils sont les premiers à porter des grosses caméras, des choses comme ça. Et puis il y a tous ces porteurs. Alors le matin, on démonte tout le camp, ça prend au moins 2-3 heures. On marche un bout, puis le soir, faut remonter le camp, ce qui prend encore plus longtemps. Donc c'est par petites étapes comme ça. On passe d'abord dans les forêts, la forêt primaire. On continue, on arrive dans les roches. Puis petit à petit seulement au camp de base. Mais ça va un avantage extraordinaire. Le camp de base, il est à 5200 mètres. C'est que pendant toute cette marche, on s'acclimatait. Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'accidents sur l'Everest et d'autres sommets parce que les gens qui vont trop vite au camp de base ne prennent pas le temps d'acclimater leur corps à cette altitude.
Vous voulez dire le manque d'oxygène, c'est ça?
Le manque d'oxygène. Et forcément, on va trop vite. À l'époque, cette marche longue permettait au corps d'abord de s'habituer à marcher. Souvent, quand on arrive là-bas, on n'est pas vraiment en forme parce qu'on a eu un long voyage. On a préparé d'XP, c'est toujours très long, donc on n'est pas forcément toujours bien entraîné. Donc cette longue marche avait cet avantage d'être à la fois une découverte extraordinaire d'un pays et une capacité énorme de pouvoir mieux monter sur la montagne qu'on avait envie de faire. Et bon, Pierre Mazeaud et son équipe ont su prendre le temps nécessaire. On réussit l'Everest aussi parce que les conditions étaient bonnes. Et c'est vrai que dans la carrière de Pierre Mazeaud, je crois que c'est une chose qui se souvient avec beaucoup d'émotion. Mais moi, je l'ai rencontré, j'ai longtemps discuté avec lui de ce sommet. Il m'a parlé de plein d'autres sommets, plein d'autres endroits. Pour lui, l'Everest, c'était qu'une étape de sa vie d'alpiniste. Il avait plein d'autres choses à me raconter sur les Dolomites, sur les Alpes et autres. Et finalement, c'est vrai que on voit parfois la perversité, c'est qu'on parle beaucoup d'une réalisation qui est celle de l'Everest, par exemple pour Pierre Mazeaud. On oublie parfois que ce sont des gens qui ont une carrière énorme dans leur domaine, qui ont fait beaucoup de choses, qui ont donné beaucoup de passion à ça, et qu'on peut pas réduire à un seul sommet.
Un élément. On reste dans le froid, mais vraiment dans le froid, au pôle sud, avec Claude Lorius. Alors, dans le cadre d'une expédition, en tout cas avec les Américains et les Soviétiques, se retrouve à Vostok à faire un prélèvement de carottes glaciaires qui sera le plus profond réalisé, 2083 mètres.
Exactement. Alors, on est en pleine guerre froide. Donc, c'est pas rien d'avoir réussi à monter une expédition qui mélangeait Russes et Américains et Français pour une chose que tout le monde avait envie, c'est une meilleure connaissance du réchauffement. À l'époque déjà, on commençait à parler de réchauffement climatique, et c'est Claude Lorius et son équipe qui, grâce à cette carotte, vont pour la première fois démontrer la réalité du réchauffement climatique, puisque c'est dans les glaces qu'on peut lire, remonter à des milliers, des centaines de milliers d'années auparavant, on lit quelle température il faisait il y a 100 000, il y a 200 000 ans. Et c'est vrai que cette carotte est extraordinaire à plein de points de vue, d'abord parce que scientifiquement, c'est une découverte fabuleuse, et on la doit entre autres à Claude Lorius et aux équipes qui ont travaillé avec. Et puis on a démontré aussi la capacité des scientifiques et des explorateurs à réunir des nations qui a priori n'étaient pas faites pour travailler ensemble. Jean-Louis Etienne avec ESTGR l'a fait aussi en 1990 avec Transantarctica, réunissant japonais, chinois, anglais, américains, russes et français, qui a priori n'étaient pas non plus des nations faites pour travailler ensemble. Les explorateurs peuvent démontrer que la Terre ne doit pas se limiter aux frontières et qu'on doit être capable de travailler ensemble. C'est parfois quelque chose qu'on oublie trop souvent, mais tout d'un coup, des petits flashs comme ça, parce qu'ils sont médiatiques, parce qu'on en parle, permettent de se rappeler qu'il y a d'autres personnes que nous sur Terre. Et c'est aussi une belle réussite.
Parlons, si vous le voulez bien, de Jean-Baptiste Charcot et de Paul-Émile Victor. Alors, Jean-Baptiste Charcot était membre de l'Académie des sciences, mais pas, il n'appartenait pas à la Société des explorateurs. Et inversement, Paul-Émile Victor n'était pas académicien, mais appartenait à la Société des explorateurs. Quelles sont leurs aventures à tous les deux, puisque Paul-Émile Victor, finalement, son destin s'est joué au travers de Charcot.
Oui. Parce que Paul-Émile Victor, en 1934, il a une envie, c'est d'aller voir le monde un peu ailleurs. Il a travaillé à Saint-Cloud dans l'usine de son père, et puis c'est pas forcément son truc. Donc il se dit, j'ai envie d'aller étudier les Polynésiens, j'ai envie de faire de l'ethnologie. Il monte à Paris pour faire ses études. Et puis là, il rencontre Jean-Baptiste Charcot, qui part, lui, pour une expédition vers le Groenland. Et là, c'est immédiat chez Victor, qui n'est qu'un jeune homme, qui n'est absolument pas connu, qui n'a encore rien fait. Il lui dit, est-ce que vous pouvez m'emmener, moi, avec quelques amis, nous déposer sur la côte du Groenland? Pendant que vous faites votre expédition, nous, on y reste. On étudie les Inuits. Puis quand vous redescendez, vous nous prenez en passant et puis vous nous ramenez. Et Charcot, qui était un homme extraordinaire et avec une qualité humaine fabuleuse, dit oui à cet inconnu, ce jeune homme, qui lui montre un enthousiasme, une volonté qui paraît inébranlable. Et grâce à Charcot, finalement, Victor fait sa première expédition au Groenland. Puis c'est de nouveau grâce à Charcot qu'il se fait redéposer une deuxième fois en 1936. Et Charcot, qui doit passer le reprendre, malheureusement, ne reviendra jamais, puisque le pourquoi pas va couler et qui apportera malheureusement la disparition de Charcot. D'où d'ailleurs le fait qu'il n'ait pas fait partie de la Société des explorateurs français, mais qui a lancé, j'allais dire, Paul-Émile Victor. Et donc, grâce à ça aussi, tout ce qui va suivre, et notamment la création des terres australes françaises, des missions Paul-Émile Victor, toutes ces choses-là, ben sans Charcot, on peut penser qu'en tout cas, ça n'aurait pas existé comme ça. Et c'est vrai que pour nous, dans le cœur de la Société des explorateurs français, on a presque des fois envie de dire, ben, il en faisait partie, parce que c'est quelqu'un qui était tellement proche de tous les jeunes explorateurs, qui avait tellement envie d'aider, de faire connaître ce qu'il faisait, de faire connaître la qualité de la France et de l'expédition, et qu'on pouvait encore explorer des choses, quoi qu'on en disait déjà à l'époque, que je suis persuadé qu'il aurait été peut-être le premier président, ou en tout cas qu'il aurait fait partie du club. Et ça permet d'ailleurs de parler d'une autre personne qui nous fait de la peine d'avoir pas pu le mettre en avant comme on aurait voulu, c'est justement Jean-François Degnaud, qui est aussi académicien, qui malheureusement, le livre doit parler des explorations et des premières qui ont été réalisées par les Français, donc ce n'était pas le cas de Jean-François Degnaud, malgré les incontestables voyages qu'il a fait et toutes les découvertes qu'il a pu faire au cours de sa vie. Mais c'était malgré tout d'abord un écrivain. Et on aurait évidemment beaucoup, beaucoup aimé que Jean-François Degnaud fasse la préface de notre ouvrage. Malheureusement, là aussi, la disparition de Jean-François Degnaud juste avant de pouvoir écrire cette préface n'a pas permis ça. Mais c'est vrai que des gens comme Charcot, comme Degnaud, on ne les cite pas dans le livre, mais ils font partie de ces hommes et de ces femmes qui ont permis à l'exploration d'exister, de se faire connaître. Parce que sans écrivains, sans réalisateurs, sans personnes qui sont prêtes à prendre les autres par la main pour les emmener, pour les faire débuter leur carrière, il n'y a pas d'exploration.
Et pour revenir, si vous voulez bien, deux minutes à Paul-Émile Victor. Et Paul-Émile Victor est ethnologue de formation.
Oui.
Et il va s'intéresser bien sûr aux Inuits et va y trouver une compagne avec les Inuits, s'installe dans une famille, s'imprègne réellement de la culture Inuit et va transmettre après ses connaissances.
Exactement, il va passer 14 mois au Groenland tout seul dans cette famille. Il avait déjà passé une année avec ses amis, cette fois il revient, il va être tout seul. Il va vraiment, grâce à ses qualités de description, de dessin, parce que Paul-Émile Victor dessine très bien, il va être capable de dessiner les mouvements Inuits, les danses, la manière de découper les phoques, la manière de vivre. Tout ça va être représenté par Victor avec une qualité extraordinaire de représentation qui va permettre de connaître pour la première fois réellement le peuple inuit. Et peut-être, dans un certain sens, pour la dernière fois, c'est un peu provocateur ce que je dis, parce qu'après, il y a d'autres personnes comme Jean Mallory qui ont étudié, qui ont travaillé avec eux. Mais les Inuits, tels qu'ils étaient en 1934, ils ont ensuite changé énormément dans les années qui ont suivi. Et donc, c'est peut-être, malgré tout, le dernier grand témoin d'une époque des Inuits. Ensuite, il y a eu, malgré tout, beaucoup de modifications. Il y a eu beaucoup de choses à dire, beaucoup d'études faites. Mais moi, je trouve que l'époque dans laquelle Paul-Émile Victor a eu l'occasion d'étudier les Inuits est celle où ils étaient encore totalement, je vais dire un mot que j'aime pas, mais authentique, à savoir en tout cas qu'ils avaient toute leur culture ancestrale encore complètement présente.
Après cette année passée avec les Inuits, il part au pôle sud, c'est ça?
Et... Alors lui, non. Pas tout de suite en tout cas, mais il y a trois jeunes qui reviennent d'une expédition au Spitzberg dont fait partie Yves Valette, qui va voir Victor en lui disant, écoute, on sait que tu es en train de préparer une expédition au Groenland, nous on prépare une expédition au pôle sud parce qu'on a envie d'aller en terre à Delhi, est-ce qu'on pourrait pas travailler ensemble? Et Paul-Émile Victor, qui est un homme qui est très réactif, a tout de suite l'idée de dire, ok, on va pas aller demander de l'argent pour une expédition, on va aller voir le gouvernement pour demander de l'argent pour toutes les expéditions polaires. Et étonnamment à l'époque, je pense que déjà pour l'époque c'était étonnant, aujourd'hui ce serait plus possible, en six mois, tout se monte, tout se crée. Les missions polaires françaises se mettent en place avec pour directeur Paul-Émile Victor, qui vont permettre à Paul-Émile Victor, dans un premier temps, de continuer à étudier le Groenland et l'Arctique, à d'autres missions de partir justement au pôle sud, et ensuite qui vont découler sur les bases permanentes, des centaines de missions un peu partout, et qui vont permettre à la France, au-delà d'être très présent dans ces milieux polaires, de faire des études absolument extraordinaires qui permettront une meilleure connaissance des terres polaires et qui aujourd'hui vont permettre de mieux comprendre ce qui va se passer par la suite, notamment avec le réchauffement climatique.
Oui, aujourd'hui, c'est toujours d'actualité.
C'est toujours d'actualité parce que la mission, la base Concordia, la base du Mont-Durville sont des bases françaises. Enfin, Concordia est une base internationale, heureusement, parce qu'il faut, se mettre ensemble aujourd'hui. On ne peut plus être chaque nation qui fait ses études de son côté. C'est encore trop souvent le cas. Il faut se mettre ensemble. Donc, Concordia est une base internationale, mais avec les terres australes françaises qui chapeautent tout ça. Et ça, c'est grâce à ce qu'a créé Paul-Émile Victor. Où aujourd'hui, on peut penser que cette capacité de réunir une complémentarité de capacités scientifiques, d'ingénierie, de développer des choses pour aller sur le terrain, ce serait très difficile parce qu'on est arrivé à une époque où on est un peu plus individuel malgré tout et on doit retrouver dans l'exploration moderne et dans l'exploration future la capacité à se réunir et travailler ensemble pour une meilleure connaissance et non pas chacun de notre coin.
Alors là, nous étions dans la période des années 36-37, hein, nous avons fait un petit bond en arrière, nous allons continuer notre bond en arrière et nous intéresser à Henri de Montfred qui, lui, n'était pas académicien, mais a failli siéger à l'Académie française, qui est un navigateur.
Oui, alors d'abord, c'est un homme qui part en Afrique pour faire du commerce. Ils se sentent un peu à l'étroit dans nos pays.
Dans le cadre des colonies.
Dans le cadre des colonies, et puis ils découvrent réellement l'Afrique. Il découvre d'abord qu'on peut y faire pas mal de commerce, qu'il y a quelque chose à se faire. Alors toute sa vie, il cherchera à gagner de l'argent. Ça marchera jamais vraiment parce que il aura un nombre d'histoires extraordinaires. C'est marrant parce que clairement, mon frère n'est pas un explorateur au premier sens du terme. C'est pas quelqu'un qui est parti dans l'idée de découverte. Mais parce que il voulait faire de l'argent, il a cherché à aller là où il y en avait. Donc, il a construit des boutres, des bateaux pour parcourir la mer Rouge. Et s'est mis à sillonner ces mers, jusque dans l'océan Indien d'ailleurs, pour essayer de voir comment ils pouvaient s'organiser, pour voir aller chercher là où il y avait quelque chose à acheter pour le vendre ailleurs. Et finalement, au fil de son parcours, il a été dans des endroits où personne n'avait encore vraiment été, ou en tout cas, il a tellement écrit sur ce qu'il voyait et sur ce qu'il faisait, parce qu'il avait une correspondance énorme avec sa famille qui était restée, sa femme, ses parents, notamment son père qui était resté en France. Cette correspondance-là décrivait avec une précision étonnante tout ce qu'il voyait, tout ce qui se passait, tout ce qu'il faisait. Donc, au final, quand on réunit toutes les lettres d'Henri de Montfred, et ensuite tous les écrits qu'il a fait, parce qu'on lui a dit un jour, c'était Kessel d'ailleurs, qui lui a dit « mais ce serait quand même dommage que tu ne nous écrives pas toutes ces aventures », il avait une capacité de description qui a permis de connaître tous les pays qui entouraient la mer Rouge et la mer Rouge en elle-même, qui fait de lui finalement clairement un explorateur, même si ce n'était pas dans l'âme un explorateur au début.
Alors, Kessel était à l'Académie française. Comment vous expliquez qu'Henri de Montfred, finalement, n'ait pas été élu à l'Académie?
Malheureusement, je pense que ce serait toujours vrai aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, ça faisait vraiment tâche. Dans ses nombreux commerces qu'il a fait, il a fait beaucoup de trafic, parce que à l'époque, il avait des bateaux. Une des manières de se faire de l'argent, c'était de passer aux yeux et au regard très acéré des autorités locales quelques armes, un peu de hashish. Alors, il partait avec ses boutres dans des conditions où personne n'osait naviguer. C'est aussi pour ça que ça fait quelqu'un qui est un aventurier absolument extraordinaire, parce que il était capable de naviguer là où personne n'osait sortir. Il remplissait ses cales de hashish, d'armes, et il passait, il attendait la tempête, le mauvais temps pour traverser en vitesse. Et c'est vrai que ces trafics n'étaient pas forcément bien vus, et a priori était une des décisions qui a empêché son accès à l'Académie.
Alors nous arrivons à la fin de cette émission. Aujourd'hui, en 2008, quelles seraient les recherches que nous pourrions entamer? Qu'est-ce qu'il reste encore à découvrir?
Il y en a trois qui me paraissent évidentes. La première est tous les fonds sous-marins. Comme on l'a dit au début, il y a aujourd'hui un vrai manque de connaissances des fonds sous-marins.
On estime qu'il y a 10%, c'est ça, des espèces connaît?
Non, alors on connaît 6% des espèces, à peine 10% des fonds marins. Donc il y a énormément à faire. Faut imaginer ce que ça représente. 75% de la planète est recouverte d'océans. Donc ça veut dire que si on prend seulement 10% de connaissances de ça, avec les 5 km de moyenne des océans, ça fait une surface gigantesque à découvrir. La croûte terrestre, qui est aujourd'hui seulement embryonnaire, la spéléologie permet de faire certaines choses, mais on est encore très loin de tout ce qu'il faudrait faire pour connaître la croûte terrestre. Ensuite, évidemment, tous les scientifiques vont permettre d'aller mieux comprendre, découvrir les nouvelles espèces, mettre en lien les espèces entre elles pour essayer de comprendre comment l'évolution s'est faite. On croit qu'on connaît bien notre évolution, puis le passé humain, finalement, on constate qu'on connaît très très peu. Des découvertes comme celle de Yves Coppens avec Lucie ou Michel Brunet avec Toumaï permettent de comprendre quelques parcelles de notre histoire, mais il y a encore tout à faire. Et pour ça, il faut aller étudier les espèces qui existent aujourd'hui pour voir comment elles ont évolué. Et puis, bien sûr, il y a l'espace.
Oui, c'est vrai, nous n'avons pas parlé là aujourd'hui.
C'est une exploration qui est un peu plus compliquée parce qu'évidemment, elle demande des moyens que avant, l'explorateur pouvait partir avec un sac sur le dos. Aujourd'hui, ce sera un peu plus difficile avec l'espace. C'est en train de se démocratiser, cela dit, et je pense que dans les années futures, on va pouvoir mieux explorer l'espace avec une petite condition, un petit bémol, c'est qu'il faudra qu'on sache explorer l'espace sans recréer les quelques problèmes qu'on a créés sur Terre. Je ne sais pas si ce sera possible, mais c'est à cette condition en tout cas qu'on sera capable d'aller plus loin dans la découverte de notre univers.
Vous avez parlé d'un prochain livre qui sera la suite de celui-ci, 100 ans d'exploration.
Alors, on n'a encore pas défini ce qui sera, mais ce qu'on aimerait en tout cas, c'est que ce livre ne soit pas unique. Au contraire, c'est le premier livre que la Société des explorateurs français dédie en hommage à ses membres et à tous les explorateurs français. On aimerait tout d'abord l'élargir pour que les explorateurs du monde puissent être présents aussi dans un futur ouvrage, parce que finalement, la France a fait des choses, mais il y a beaucoup d'autres gens qui en ont fait des tas et ce serait dommage de les oublier. Et puis, comme je l'ai dit, il y a malheureusement ce défaut d'image pour certaines expéditions. On aimerait pouvoir en parler aussi, parce qu'il y a des expéditions qui méritent vraiment d'être présentées, d'être de nouveau connus, parce qu'on passe à des missions comme Dakar, Djibouti, aujourd'hui on les connaît quasiment plus, et pourtant combien elles ont apporté de connaissances sur l'Afrique. Donc il faut qu'on poursuive ce travail qu'on a entamé avec ce livre, de pouvoir donner accès au grand public à une meilleure connaissance sur ce qu'est l'exploration, sur ce qu'elle est aujourd'hui, sur ce qu'elle va devenir, et puis aussi ce qu'elle a été, parce que sans ce qu'elle a été, il n'y aura pas de futur.
Toute dernière question un peu provocatrice, mais elle le vaut bien. Vous parliez donc de la recherche sur l'évolution des espèces, les océans, le ciel, mais alors vous, qu'est-ce que vous allez faire? Il n'y a plus forcément d'avenir dans votre exploration, dans votre domaine?
Mon domaine qui est effectivement d'abord les terres, si, il y a encore un énorme avenir. Tout d'abord, pour une simple raison, c'est que jusque-là, les explorateurs sont des spécialistes. Il y a l'explorateur polaire, l'explorateur de la forêt, l'explorateur du désert, et chacun a sa spécialité, sa connaissance de domaine. Ils sont nécessaires parce qu'il faut souvent une vie pour connaître un milieu. Moi, j'ai envie aujourd'hui d'élargir ça et d'aller comprendre comment les milieux fonctionnent entre eux. On a rarement des gens qui s'intéressent à voir comment la glace influe le désert, comment l'océan, enfin bon, on sait que les océans influent les terres, mais tout ça, finalement, on n'a pas beaucoup de monde qui a été s'imprégner dans chacun de ces milieux. Moi, ce sera mon travail pour les prochaines années. Je veux passer du temps dans chacun de ces milieux pour voir quelle est leur corrélation, leur similitude, peut-être leur différence. Ensuite, sur Terre, les milieux changent. On le sait, donc ce qu'on a connu il y a 100 ans n'est plus forcément vrai aujourd'hui, donc il va y avoir la nécessité de retourner dans certains endroits, reprendre des images. Il y a des travaux extraordinaires qui sont faits sur les photos d'Albert Kahn, par exemple, où maintenant des gens vont sur les traces d'Albert Kahn pour reprendre les photos 80, 100 ans après. Donc ça, c'est vraiment un travail qui va être nécessaire aujourd'hui pour mieux comprendre l'évolution de notre monde. Et en ça, l'explorateur aura toujours sa place.
Avec peut-être une date prochaine de départ pour vous?
Dans une semaine, oui.
Vous partez?
Pour l'Amérique centrale.
Eh bien, on vous souhaite bon voyage, Christian Clos. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite. Je rappelle le titre de l'ouvrage, 100 ans d'exploration, qui fête donc la Société des explorateurs français. 100 ans d'exploration aux éditions Glénat, paru en 2007. Eh bien, j'invite nos auditeurs à télécharger, bien sûr, cette émission, ainsi que les autres émissions en rapport avec Philippe Frey, Claude Lorius ou encore Théodore Monod. Merci de votre écoute et à très vite pour une nouvelle émission.